Anne, bonjour.
Mais bien le bonjour Sandra.
Bienvenue chez les jardinières. Des jardinières qui ce matin sont en compagnie d'Olivier Ribaud, paysagiste à Queuve. Olivier, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va ce matin?
Bah, ça va bien.
Olivier, vous êtes là pour répondre à toutes les questions de nos auditeurs, des questions concernant leur espace vert, leur jardin potager ou fleuri, leurs plantes. Bref, pour pallier à tous les soucis que nos auditeurs rencontrent, des soucis qui soient récurrents ou non.
Et d'ailleurs, justement, si vous voulez régler un souci avec une de vos plantes, vous pouvez le faire notamment par téléphone. Vous nous appelez jusqu'à 8h au 0901 70 20 20. On attend vos appels pour régler tous vos problèmes. Olivier Ribaud est là pour ça au 0901 70 20 20. Ou alors par SMS, il vous suffit de taper le mot jardin suivi d'un espace et de votre question. Et vous nous envoyez le tout au 939.
7h, 8h, les jardinières.
Et nous sommes allés à la rencontre de personnes. Nous sommes allés voir si en ville, il y avait des personnes qui ont des questions pour vous, Olivier. Nous en avons rencontré quelques-unes. Elles étaient très frileuses en ce moment. Mais quand même, il y a Mathieu qui a quelques questions pour vous ce matin, Olivier.
Mathieu. Alors moi, j'ai une question concernant les cochenilles laineuses sur les cactus ou les orchidées. Comment lutter contre ces ravageurs ?
Oui, alors c'est un problème qu'on retrouve pas mal en hiver parce qu'elles aiment bien venir au chaud et elles se multiplient facilement dans nos appartements. Alors malheureusement, on est obligé d'utiliser quand même, si on veut être assez radical, un produit chimique qu'on va trouver dans le commerce. Le nom, c'est assez compliqué parce que ça change assez souvent, mais dans le temps, on avait le paradéryl qui existe encore si on le trouve. Mais sinon, vous trouvez facilement ces produits. Et puis, vous allez les diluer dans de l'eau, bien sûr, et puis les vaporiser sur vos orchidées ou sur vos cactus. N'oubliez pas qu'il faut répéter ça assez souvent, mais quand on fait un traitement, il faut le faire, je dirais, une fois, et après, 3-4 jours après, le répéter. Parce que sinon, vos parasites, peut-être ne seront pas tous morts dès le premier traitement. Donc si vous le répétez une deuxième fois, voire une troisième fois la semaine encore qui suit le deuxième, votre plante ne risque rien, mais seulement au moins vous aurez tué toutes les générations de ces plantes, de ces bêtes.
Est-ce que c'est un problème qu'on peut prévenir ou qui survient de toute façon ?
Alors, on peut le prévenir en faisant bien sûr un petit traitement préventif à l'automne, avant les froids de l'hiver, ou bien si vous avez des cactus que vous allez rentrer depuis l'extérieur et les mettre à l'intérieur, quand vous les avez amenés dedans, au bout de 15 jours, vous pouvez les faire pour que vous n'ayez pas ces problèmes de petites bêtes. Sinon, après, il existe encore aussi les produits naturels, style savon noir ou comme ça, que vous pouvez aussi utiliser sur ces bêtes-là.
Et les cochenilles laineuses, elles se déposent juste sur les orchidées et les cactus, ou on peut en trouver sur d'autres plantes?
On peut en trouver sur toutes les plantes d'appartement et même des plantes et des végétaux extérieurs, style le buis ou comme ça, on peut en trouver vraiment sur beaucoup d'endroits. On les remarque très facilement parce que c'est comme un petit morceau de coton blanc qu'on retrouve
de la ouate
sous les feuilles dans des coins. Sur une orchidée avec des grandes feuilles lisses, on peut les enlever à la main s'il y en a seulement quelques-unes, surveiller ça assez régulièrement avec un chiffon humide ou comme ça, vous pouvez les enlever. Dans un cactus, c'est plus compliqué.
Ça fait un peu mal, faut mettre les gants, quoi.
Ouais.
Et Mathieu avait une deuxième question pour vous, Olivier.
Moi, j'ai une autre question concernant le monstre contemporain des jardins anglais, la pyrale du buis. Cette petite chenille qui ravage l'intérieur des buis pour les tuer complètement. Comment lutter de manière naturelle contre ce prédateur ?
Alors ça, c'est vraiment un phénomène du moment qu'il faut vraiment surveiller pour tous les propriétaires de buis, parce que sinon vous allez vous les faire anéantir complètement par cette pyrale du buis, comme il le dit bien. Alors, produits naturels, vous trouvez maintenant dans tous les commerces, dans toutes les drogueries, dans tous les endroits où ils vendent des produits, un produit naturel qui va très bien pour ce buis. Faites attention, ne l'utilisez ni trop tôt ou ni trop tard, parce que cette pyrale se développe très très vite. Mais il faut commencer de faire ce traitement, d'imposer ce produit à partir de la mi-mai, comme ça. L'année passée, de 2016, on a eu un souci, c'est que la pyrale a traîné très longtemps pendant l'été, et puis elle s'est revenue tard, fin juillet, après les vacances. Il y a des gens qui sont rentrés de vacances, qui ont retrouvé leur buis complètement mangé. Alors, si vous faites déjà un premier traitement mi-mai, surveillez, faites-en un deuxième pour ne pas être obligé d'après traiter curativement. Il vaut mieux le faire une ou deux fois mi-mai jusqu'à fin mai pour que la plante ait absorbé ce produit, que si quelques chenilles qui viennent commencer de le manger meurent tout de suite avant qu'elles ne se développent. Parce que sinon, après, elles se développent à une vitesse énorme. Ils mangent les feuilles des buis. Et puis après, une fois que vous les avez une année, elles vont faire un cocon pour l'année suivante. Donc la chenille va se transformer en papillon pendant l'été, elle va revenir pondre des œufs, puis vous l'aurez de nouveau l'année prochaine. Donc surveillez bien à partir de la mi-mai pour traiter avec ce produit contre les buis.
Donc ça, c'est un problème qu'on peut autant prévenir que guérir.
C'est plus facile à combattre en le prévenant que de guérir après une fois qu'elles sont là. Oui, tout à fait.
Parce que si elles sont là, comme vous dites, vous rentrez de vacances, la pyrale du buis a agi, oui. Comme le dit hein, cette bête monstrueuse contemporaine, qui d'ailleurs, bah, dites-nous, elle ressemble à quoi ?
Alors c'est une belle petite chenille qui fait à peu près 4 cm de long, elle est verte avec des petits points jaunes. Je dirais, tapez ça vite fait une fois sur Internet et vous allez voir à quoi elle ressemble. Si vous secouez bien un buis au mois de juin-juillet qui est à manger, vous allez automatiquement en trouver. Vous ne risquez rien au niveau de la peau, mais il ne faut quand même pas trop en toucher. Mais le problème, une fois qu'elles sont là, vous savez qu'elles vont... Après, cette chenille va venir automatiquement le papillon, comme le cycle naturel. Et après, les papillons vont répondre dans ces buis. Donc, vous aurez de la peine à vous en débarrasser naturellement. Il faut sévir une fois pour ne plus les avoir.
Est-ce qu'il y a des chenilles qui sont inoffensives pour nos plantes ou bien il faudrait un peu toutes les éradiquer dès qu'on en voit une ?
Donc on sait que la chenille, c'est le début d'un papillon, donc il ne faut pas tout éliminer, toutes les chenilles. Vous avez les chenilles des carottes, par exemple, ou la chenille des choux dans les potagers, qui sont des jolies petites chenilles aussi. Qu'ils ne vous font pas d'or ou autre. Par contre, après, il y a des chenilles. Il y en a surtout une qu'il faut veiller. C'est la chenille processionnaire qu'on commence de trouver aussi dans notre région. Je suis le premier à en parler parce que je me suis fait bien attaquer. Elle est très urticante. Vous la reconnaissez très bien parce que vous allez avoir des dizaines de chenilles qui vont se suivre à la queue leu-leu et vous la trouvez sur les pins, sur les chênes et sur les bouleaux en principe. Donc si vous voyez des chenilles comme ça qui se suivent, et il y en a au moins, elles sont processionnaires, donc elles se suivent l'une derrière l'autre, faites attention parce que ça c'est très urticant, mais c'est la seule qui est très très dangereuse.
Merci beaucoup Olivier d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes là également pour répondre aux questions des auditeurs. Les auditeurs peuvent d'ailleurs nous appeler hein, jusqu'à 8h au 0901 70 20 20. On attend vos questions au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Ou alors vous pouvez simplement nous envoyer un SMS en tapant le mot jardin suivi de votre question. Et vous nous envoyez le tout au 939.
Les jardinières.
Des jardinières qui ce matin sont en compagnie d'Olivier Ribaud. Il répond à toutes vos questions, des questions qui, on espère, seront nombreuses. N'hésitez pas, on attend vos appels.
Au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Je vous rappelle le numéro des jardinières que vous pouvez composer jusqu'à 8h si vous avez un souci avec votre plante d'intérieur ou que vous voulez déjà préparer votre jardin à l'arrivée du printemps. C'est le 0901 70 20 20 qu'il faut composer.
Et des questions, nous en avons, puisque nous sommes allés à la rencontre des gens cette semaine. Et Patrick a une question concernant une de ses plantes d'intérieur.
Patrick, juste une petite question. J'ai rentré un bananier cet été à l'intérieur de mon bar. Et puis, j'ai toute la partie du bas qui n'arrête pas, les feuilles sont mortes. Est-ce que c'est un problème de... Comment je vais dire ça? Est-ce que c'est un problème d'avoir déplacé? Ou elle a été contrariée par le temps?
Alors, la question est très bonne. Toutes les plantes qu'on rentre en fin d'été, début d'automne, à l'intérieur, au chaud, ce sont des plantes qui ont déjà eu une période végétative importante pendant l'été. Ça veut dire qu'on les a arrosées, on les a fait pousser, on leur a fait faire vraiment beaucoup de feuilles pour qu'elles soient jolies. Donc automatiquement, elle a développé un grand système foliaire qui, quand Patrick, notre ami de Démon, ramène sa plante à l'intérieur, alors c'est le phénomène qu'il a eu sur son bananier, mais ça arrive aussi sur des ficus, sur des grands yuccas par exemple. Vous mettez au bord de la piscine un grand yucca. En automne, quand vous le rentrez, il va automatiquement un peu jaunir. Et les feuilles qui vont jaunir et qui vont tomber, ce sont toujours les feuilles du bas. Parce que la plante va, c'est les premières feuilles qu'il a fait. Les dernières feuilles qui sont à l'extrémité des pousses vont rester belles vertes. Alors ça, c'est dû à plusieurs phénomènes. Le premier, c'est surtout parce que déjà on commence à avoir moins de lumière en hiver, donc la plante elle élimine une partie des feuilles. Après, il peut l'avoir laissé un petit peu avoir un peu plus soif à l'intérieur parce qu'on s'en rend pas compte, mais vu que l'intérieur est plus sec que les extérieurs où il y a plus d'humidité, donc les plantes se rendent compte qu'ils ont trop de feuilles par rapport au volume, donc ils vont éliminer des feuilles, donc elles vont jaunir ces feuilles. Et puis après, ça peut être qu'il a peut-être déjà eu une fois froid. Bon, il dit qu'il a rentré en fin d'été, mais si vous rentrez une plante tard, en automne, par exemple, mois de septembre, octobre, qu'il a déjà eu des nuits très fraîches, très humides, la plante peut déjà avoir pris un coup de froid. Puis quand vous la ramenez à l'intérieur au chaud, eh bien, cette plante, elle va avoir un petit choc de température thermique, et puis elle va se dire, oh là, il faut que je survive, schématiquement, c'est un peu ça, et pour pouvoir survivre, pour garder un cycle de vie, eh bien, elle va éliminer des feuilles. Donc c'est pour ça qu'on a nos plantes qui perdent leurs feuilles. Et plus vous faites des chocs violents, donc ça veut dire les laisser avoir très soif, puis les arroser, donc ça fait perdre des feuilles. Si vous les laissez avoir très froid, puis les rentrer où il fait très chaud, ça fait des chocs thermiques, donc ça les stresse, ça existe aussi sur les plantes, ça fait un stress végétatif, et puis la plante, elle va éliminer des feuilles. C'est pas grave, au contraire, ça la mettra en période un peu de repos. Ce qu'il faut travailler avec ça, c'est qu'il faut pas trop l'arroser, parce que vu qu'elle a moins de feuilles, il faut la laisser un petit peu sur les réserves, donc l'arroser moins. De temps en temps, en hiver, ils remettent quand même une ou deux fois d'engrais quand ils les arrosent pendant l'hiver. Et puis après, au printemps, ces plantes vont refaire un nouveau feuillage qu'il faudra là, à ce moment-là, redonner de la nourriture, rempoter, qu'on verra plus tard, et puis refaire partir cette plante en végétation pour refaire des belles feuilles pour l'été prochain. Et c'est même très bien pour toutes les plantes d'appartement qu'on met dehors puis qu'on remet dedans, d'avoir ces repos végétatifs pendant l'hiver. Mais cette plante est l'objet d'éliminer des feuilles. Pour le bananier, si j'ose encore juste ça, ne pas arracher les feuilles. Souvent ce qu'on fait, elle est sèche, on prend la feuille, on tire dessus, on arrache tout. C'est pas trop bon parce que ça va décoller le collet du pied du bananier. Puis après, si vous arrosez un peu trop, ça peut pourrir. Donc coupez juste la feuille pour l'éliminer si vous n'aimez pas l'avoir, mais laissez la partie qui est collée contre le tronc se laisser dessécher tout seul.
Et justement, si Patrick, il a envie de préparer un peu son bananier pour le printemps, qu'est-ce qu'il doit faire exactement pour qu'il n'ait pas à nouveau un choc de température de ce genre-là ?
Eh bien, bon, il va le ressortir au printemps dès les premiers beaux jours, c'est-à-dire quand les périodes ne seront plus à geler, donc après les saines glaces, parce que c'est quand même délicat. Donc d'ici là, d'ici un mois, il peut le rempoter. Ça veut dire qu'il peut le. Maintenant, il est au repos, il va sortir son pot, il va vraiment bien taper la motte au sol pour enlever la vieille terre qui a été utilisée l'année passée, et puis rapporter du nouveau terreau, une nouvelle terre bien riche, avec même un engrais complet qu'il trouve dans le commerce, qui mélangera à ce terreau et qui va rempoter dans un pot un peu plus grand pour que son bananier puisse se développer l'année prochaine.
Merci pour ces informations. On espère que le bananier de Patrick se portera bien.
Les jardinières.
Des jardinières qui sont de retour. Nous sommes toujours ce matin en compagnie d'Olivier Ribaud. Olivier Ribaud, paysagiste à Queuve. Olivier qui répond à toutes vos questions, des questions que vous pouvez nous poser en appelant
au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Ne faites pas les timides, on mord pas, hein, promis. 0901 70 20 20 ou par SMS. Vous tapez votre question suivi d'un espace. Non, vous tapez le mot jardin suivi d'un espace puis de votre question et vous nous envoyez le tout au 939 comme l'a fait cette personne qui vient de nous envoyer une question. La question est la suivante, Olivier. Est-ce vrai qu'on ne doit pas mettre une orchidée dans un cache-pot? Les racines doivent être au jour.
Alors c'est vrai, c'est quelque chose qu'on a pris l'habitude de faire, de mettre une orchidée dans un cache-pot justement pour cacher le pot et les racines et la terre. Et si on veut faire vivre correctement une orchidée, ces racines elles ont une fonction, c'est-à-dire c'est des racines aériennes qui vont absorber de l'humidité et qui vont avoir un petit peu la même fonction qu'une feuille, vont aussi absorber de la lumière du jour bien sûr, pour développer toute l'orchidée. Maintenant, si vous le faites, ça ne va pas la faire mourir, mais c'est une théorie qui est juste qu'on devrait laisser une orchidée les racines à l'air. Il y a même des orchidées qui n'ont pas besoin de terre, qui n'ont que les racines qui sont en l'air, qui absorbent cette humidité de l'air et cette lumière. Donc c'est vrai que c'est comme ça qu'on devrait le faire.
Et on parle pas mal de plantes d'intérieur hein, ce matin parce qu'on est justement, il fait un peu froid, on n'a pas trop envie d'aller dehors, de s'occuper du jardin. Est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 filons pour tous ceux qui ont des plantes d'intérieur, à savoir ce qu'il faut faire en ce moment justement si on veut pas aller au froid et commencer de jardiner, enfin commencer de bêcher ou autre plaisir du jardin à l'extérieur?
Et pour ceux qui ont des plantes d'appartement et puis un jardin d'hiver, par exemple, c'est le moment, c'est la bonne période pour reprendre les sujets d'avant avec le bananier. On peut rempoter nos plantes d'appartement, donc en enlevant le pot, en défaisant la motte le système de racines, parce que souvent, ils tournent autour du pot, donc il faut démêler un peu tout ça, en couper quelques-unes pour que, au fait, on coupe ou on casse une racine, il va en revenir des nouvelles. Et puis c'est la bonne période parce que c'est, pour revenir sur le sujet de la première plante qui sèche en hiver, eh bien c'est à cette période qu'elle travaille au niveau photosynthèse et lumière, les plantes, elles travaillent le moins en hiver. Donc on va les rempoter à cette période pour que dès qu'on aura les beaux jours, les bonnes températures, on va remettre de l'humidité, donc on va bien les arroser. Et puis c'est là qu'ils vont refaire un système racinaire dans ce nouveau terreau en ayant apporté un élément nutritif, donc de l'engrais. On va trouver dans les commerces facilement. N'hésitez pas à mettre de l'engrais dans la terre et continuer après d'arroser à l'engrais liquide, mais déjà dans la terre. Et c'est là qu'au printemps, vos plantes vont refaire des nouvelles feuilles pour avoir un bel aspect l'été suivant.
Et puis on parlait avant de plantes d'intérieur. Patrick avait son problème avec son bananier. Et il y a un problème aussi qui est souvent récurrent. Quand il y a ces feuilles jaunes séchées en bas de la plante, souvent il y a des jeunes pousses à côté dans le même pot qui n'ont absolument aucun mal, qui ne sont pas jaunes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il faut les séparer ou est-ce qu'on peut laisser la plante telle que juste dans le même pot?
Alors ça c'est le cas bien typique pour le bananier. C'est clair qu'il va toujours refaire un jeune bananier au pied. Chaque année il en aura un nouveau normalement. Alors ça c'est un choix, soit vous le laissez avec la maman, donc
il risque rien.
Ou sinon, si vous voulez en faire plusieurs, et ben vous allez prendre un grand couteau, vous allez couper, séparer entre le bébé et puis la maman, vous allez couper tout ça, et puis vous allez les rempoter séparément. Et c'est l'année suivante que vous aurez un bananier de nouveau grand pour en avoir plusieurs.
Le petit, il n'a pas besoin du grand pour bien survivre et on peut le mettre dans un autre pot tout de suite?
Alors on le fait justement comme maintenant au printemps, depuis maintenant jusqu'au mois de mars. C'est à cette période qu'on peut le sevrer, on dira, le couper de la plante mère et puis qu'il pourra se débrouiller tout seul bien sûr. Mais pas le faire en été quand il fait chaud, quand la grande plante absorbe l'eau et l'humidité. Le petit là, il est nourri par le grand.
Mais si on le sort au premier rayon du soleil, oui. Il faut faire attention aux seins de glace.
Alors ça, c'est important aussi, les seins de glace. Donc les seins de glace qui vont se finir autour du 15 mai, par là, mi-mai. Donc des plantes d'intérieur, il ne faut pas les sortir avant. On peut les préparer, on peut les mettre dans un jardin d'hiver, on peut les emmener vers une baie vitrée ou comme ça, mais ne pas les mettre dehors tout de suite. Et puis après, il faut aussi faire attention aux coups de soleil, surtout, parce que tout d'un coup, au mois de mai, quand on a des beaux jours, des beaux rayons, on se dit, allez hop, on met tout dehors sur la terrasse. Et les plantes, la feuille, c'est comme la peau. Si vous les mettez trop vite au soleil, et bien elles vont choper un coup de soleil, elles vont brûler, et qu'après ces feuilles vont jaunir et puis on devra en refaire des nouvelles. Donc c'est dommage.
Mais il n'y a pas de crème solaire pour les plantes, j'imagine.
Il faut les habituer progressivement. D'abord les mettre dehors côté ombre et puis les amener au soleil gentiment.
Olivier, je rappelle aux auditeurs que vous êtes là pour répondre également à leurs questions qui peuvent nous poser par SMS en tapant le mot jardin suivi de la question, le tout à envoyer au 939 ou alors maintenant par téléphone au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Je vous rappelle le numéro de téléphone si vous avez une question à nous poser, c'est le 0901 70 20 20.
Et on poursuit dans les jardinières avec, je crois, Éline, une petite question de Corinne.
Oui, qu'on a reçu par SMS. Elle vous demande, Olivier, est-ce que c'est vrai que les plantes aiment la bière, notamment pour nettoyer les feuilles ?
Alors, les plantes aiment la bière, peut-être comme jardinier, je ne sais pas. Mais... oui, alors, c'est une pratique qu'on utilise sans problème, de prendre de la bière que vous allez diluer. Vous allez mettre 50% de bière, 50% d'eau, et que vous allez utiliser pour nettoyer les feuilles des plantes d'intérieur ou d'extérieur, mais surtout d'intérieur, parce que comme toute chose dans un appartement, les plantes prennent beaucoup la poussière, et puis ça forme une petite pellicule sur la feuille, et ça empêche, plus elle est épaisse comme sur le meuble, plus il y aura de la poussière, ça empêchera votre plante de faire de la photosynthèse, donc ça empêchera la plante de travailler, d'absorber le soleil pour qu'elle puisse vivre, elle puisse respirer. Donc une fois par hiver, en tout cas, voire deux, vous pouvez prendre vos plantes vertes, les mettre dans une baignoire par exemple, les doucher avec la douche, avec une eau tiède, puis après vous allez frotter avec cette solution de bière et d'eau pour que vos feuilles reviennent bien lisses et puis bien propres, avec un chiffon moelleux comme ça, pas une éponge, hein, mais un chiffon moelleux, pour après que votre plante puisse de nouveau, ce que nous on dira travailler, c'est qu'elle puisse refaire de la photosynthèse, qu'elle puisse continuer de vivre comme il faut.
Et c'est plutôt, enfin ça c'est peut-être une question de détail, mais c'est plutôt des bières blondes qu'on utilise ou les autres un peu plus fortes, les brunes et tout, ça va aussi?
Alors,
ou c'est plutôt les moins fortes?
Ça c'est égal.
C'est égal.
Okay. Il faut quand même un peu les diluer parce que pure c'est un peu trop fort quand même.
Merci Olivier d'avoir répondu à Corinne. Et Claire, que j'ai rencontrée hier, a également une question.
Bonjour, je m'appelle Claire. J'aimerais savoir quelle plante je peux prendre à la maison avec un enfant de 16 mois qui n'est pas toxique et qui demande très peu d'entretien.
Alors c'est beaucoup de critères parce que peu d'entretien pour une plante, c'est compliqué. Il faut quand même toujours un minimum, ben comme on l'a vu, soit un peu nettoyer les feuilles, soit l'arroser, soit de temps en temps la rempoter. Mais il y a quand même des plantes qui sont faciles, je dirais, entre parenthèses. Dans les plantes vertes surtout, ce sera plus facile d'avoir une plante qui fait que des feuilles sans avoir de fleurs déjà. Et puis après, concernant la toxicité des plantes, je dirais que c'est assez compliqué parce que je pourrais en énumérer une certaine liste, un chlorophytome, un fastia japonica,
en français,
ou bien un bocarnéa par exemple. Donc le bocarnéa c'est qu'un pied d'éléphant, et justement c'est pour ça que vous auriez meilleur temps de faire une petite recherche sur internet, et puis à ce moment là vous allez trouver toute une liste de plantes qui peuvent vous correspondre plus l'une que l'autre pour mettre justement dans l'endroit où vous voulez la mettre. Mais tout ce qui sera plante verte sera plus facile que plante à fleurs.
Donc on en trouve, en fait, il faut que Claire, quand elle se rend chez son jardinier ou chez son fleuriste, qu'elle demande en fait simplement quelles sont les plantes qui ne sont pas toxiques afin de ne pas mettre... Parce qu'il y en a peu, ceci dit, ou...
Non, alors il y a plus de plantes donc pas toxiques que de plantes toxiques, ça c'est clair. Il y a quand même quelques plantes qu'il faut éviter. Mais là, justement, faites attention. Regardez déjà ce qui vous intéresse et après, vous faites une recherche par rapport à ça, si elle est toxique ou pas.
Merci Olivier. Et il y avait également Audrey qui avait une question concernant des ravageuses aussi.
Audrey, alors moi j'aimerais savoir comment peut-on lutter efficacement contre les limaces dans notre jardin potager ?
Alors là, c'est toute une grande question. Les limaces, il y a beaucoup de personnes qui veulent pas les combattre avec le seul produit qui existe au jour d'aujourd'hui, qu'on va épandre, un granulé anti-limaces. faites toujours attention, parce que moi j'ai déjà vu dans des jardins potagers des gens qui plantent une salade et qui font un joli petit liseré bleu tout autour de cette anti-limace. Donc ça, c'est beaucoup trop, c'est trop, ce sera toxique à un moment donné. Donc déjà, l'anti-limace, ne l'épandez pas dans le jardin, épandez-le au pourtour du jardin. Donc si vous avez de l'herbe, un bosquet ou n'importe quoi, les limaces, pendant la nuit, elles vont se réfugier là-bas. Donc épandez déjà un anti-limace, un, deux jours avant de planter vos jeunes plants de légumes, et automatiquement après, vos limaces ne viendront pas. Ça, c'est déjà une partie la plus simple. Il existe des petites barrières anti-limaces pour mettre autour des jardins, où c'est que les limaces peuvent juste monter, mais après elles ne peuvent pas revenir dans le jardin, mais ça c'est toute une installation. Et puis après, ben, y a pour les plus férus, c'est-à-dire les guetter, et puis leur mettre un petit peu de sel sur le dos, et elles vont...
Ce
qu'on aimait bien faire quand on était petit. Alors c'est pas très sympa, mais on les voit... Alors ça c'est la deuxième possibilité, mais si vous voulez... vraiment mettre aucun produit, ben c'est de faire votre jardin en sorte que les limaces n'y viennent pas, soit un jardin en hauteur, soit un jardin avec une barrière anti-limaces. Et sinon, ne mettez pas d'anti-limaces dans le jardin, et surtout pas des poignées complètes. Vous en mettez vraiment quelques grains et vous les mettez à l'extérieur du jardin où habitent les limaces.
Alors justement, Claire, à la fin de sa question, m'a dit « Ah, j'ai oublié de demander avec un produit naturel ».
Eh bien, le produit naturel,
c'est le sel,
oui. Vous n'avez pas d'autre. Le sel, on peut mettre de l'eau bouillante ou des choses comme ça, mais c'est un petit peu un supplice aussi. Alors, mais de toute façon, si vous voulez les faire mourir, il n'y a pas le choix, il faudra trouver un moyen comme ça.
Il faut prendre congé puis les guetter.
Ou les guetter, les prendre puis les ramener dans le jardin du voisin.
Ça, c'est une bonne idée. On est là pour vous conseiller au mieux, Olivier.
Exactement.
C'était un magnifique conseil.
Je crois qu'on a un téléphone, Sandra.
Alors,
bonjour, qui est avec nous?
Bonjour.
Oui, bonjour, Pascal.
Bonjour, Pascal.
Alors, j'ai une idée pour les limaces. J'ai déjà fait pour le potager. C'est mettre du charbon de bois.
Tout à fait. Alors, c'est quelque chose que... Ben, merci de nous le rappeler. Charbon de bois ou les cendres. Vous allez faire un petit tour de cendres, un petit monticule de cendres tout autour du jardin. Puis la limace, quand elle vient dedans, elle n'aime pas ça, donc elle retourne en principe. Oui, ça c'est vrai. Bonne idée.
Ah, merci Pascal.
Merci, puis bonne journée à tous.
Merci Pascal, merci beaucoup, à bientôt.
Et d'ailleurs, on a aussi reçu un SMS, là, juste à l'instant, il y a quelqu'un qui nous demande « Existe-t-il un moyen de faire fuir les taupes? Mon gazon est envahi ». C'est Virginie qui nous pose la question.
Alors là, les faire fuir, il existe quelques appareils style ultrason, comme on trouve pour les fouines et tout ça, mais ça sera un petit peu compliqué. Mais sinon, c'est de les attraper, mettre des trappes, retrouver les galeries, mettre une trappe dedans, et puis les attraper comme ça, c'est le seul moyen. Une taupe fait vite des dégâts, hein. Il y en a peut-être pas beaucoup, mais il faut sévir assez rapidement, parce que sinon, vous avez vite des monticules de terre, c'est clair.
Si vous voulez encore poser une question, c'est vraiment le dernier moment pour le faire, hein. Vous nous appelez maintenant au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. 0901 70 20 20. Et Olivier, justement, en parlant des taupes, il n'y a pas quelque chose qu'on peut déjà faire a priori, enfin en prévision, pour les faire fuir?
Je vois pas le sens de votre question, mais les faire fuir, non. Si vous avez des champs, des endroits autour de votre jardin, et puis qu'elles ont envie de venir chez vous, elles vont pas se gêner.
Ouais, alors alors en fait, comme vous avez dit, hein, du moment qu'on guette les limaces, on se pose sur une chaise et puis on guette les taupes.
Ouais, non, ça c'est un peu plus difficile. Il faut être rapide.
Il y a quelqu'un qui était rapide qui veut encore poser une question avant la fin de l'émission. Bonjour, qui est avec nous?
Radio.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, c'est Denis de Courtemèche.
Bonjour Denis.
J'ai une question, j'aimerais savoir comment il faut traiter la mousse qu'on a sur les arbres fruitiers.
Alors la mousse, donc le lichen, la petite mousse blanche qui...
Pas vraiment blanche, plutôt de la mousse verte qui vient sur les troncs, les arbres fruitiers.
Voilà, alors, c'est quelque chose que... Il n'y a pas de produit pour éliminer cette mousse. Parce que c'est en fait, elle se développe si c'est un peu humide, si c'est à l'ombre.
Ouais, c'est ça.
Vous pouvez automatiquement traiter vos arbres fruitiers au printemps avec une huile pour englober tout ce qui sera parasite à carapace qu'ils auront hiverné. Et puis là, vous allez ajouter un cuivre. Alors ça va un peu l'atténuer, mais ça ne va pas la faire disparaître complètement. Maintenant, si vous le faites chaque année, ce traitement de printemps, elle peut diminuer. Mais si vous avez des vieux arbres et puis qu'il y en a beaucoup, ce sera difficile à l'exterminer complètement. C'est pas possible. Sur un tronc, c'est pas possible. Sur les branches, quand on taille, on va déjà éliminer les plus vieilles ou celles qui en aura le plus. Mais en principe, après, c'est plus un lichen, c'est gris, blanc, c'est pas la vraie mousse verte. Mais en niveau produit, il n'existe plus de produit. Et puis en plus, cette mousse ne dérange pas la vie de l'arbre, c'est juste plutôt esthétique. Mais si vous le traitez, si vous faites un traitement de printemps contre les parasites, mettez en même temps du cuivre, et c'est ça qui enlèvera la mousse.
Très bien, merci.
Merci à vous.
Bonne journée,
Denis. Bonne
journée, Olivier, le temps file à grande vitesse, à vitesse grand V. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Donc, des questions, vous pouvez nous les donner tout au long de la semaine. On se revoit incessamment sous peu, Olivier, me semble-t-il.
Oui, je crois.
Éline, on a rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Jardinières.
Exactement, samedi prochain, 17h. Et si vous voulez déjà poser vos questions, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui se trouve sur notre site internet.
Belle journée.
Merci à vous.
7h, 8h, les jardinières.